8h31 minutes. Alors, évidemment, deux dossiers fédéraux ce matin. Le premier, c'est la décision de Justin Trudeau de prendre en main le prolongement, l'agrandissement du pipeline Trans Mountain. Et ça va coûter 4,5 milliards strictement pour la partie achat.
Probablement la plus grosse décision de son mandat. Quand on arrivera à la fin de son mandat, là, dans un an et quart, un an et demi, on va dire que ça aurait été la plus grosse. Puis quand je dis la plus grosse décision, parce qu'il y a tout là, dans la décision, là. Il y a beaucoup d'argent avec une prise de risque. Il y a un aspect volontaire, c'est-à-dire qu'il avait dit qu'il voulait que ce pipeline-là se construise. Bien, il prend les moyens extrêmes, j'appelle ça des moyens extrêmes, pour que ça arrive, pour le faire construire. C'est une décision aussi qui est... qui ne fera pas l'unanimité, au contraire, qui semble faire l'unanimité contre lui. Il faut toujours faire attention, là, parce que, bon, d'un côté, évidemment, tous les environnementalistes, tous les idéalistes qui avaient voté Trudeau, là, il y a un choc de la réalité. De l'autre côté, il y a ceux qui
chialent avec lui. Des idéalistes. Hein? Tu appelles ces gens-là des idéalistes qui avaient voté pour Trudeau. Ceux qui ont cru qu'il était véritablement un environnementaliste.
Ben oui, un vert, puis que les mauvaises choses de l'économie, puis tout ce qui fait de la boucane, puis du bruit, on ne toucherait pas à ça parce qu'on vit dans un monde merveilleux, comme dans les films de Disney. Puis après ça, de l'autre côté, il y a les conservateurs. Il y a comme un volet philosophique. Puis là, c'est-à-dire que moi-même, je suis un peu sensible à ça, de dire, ouais, c'est un projet de nature privée. Puis là, on met 4,5 milliards de fonds publics là-dedans. Pour avaler celle-là, il faut vraiment arriver à la conclusion que c'est la seule solution. Là. Que tu étais dans un tel cul-de-sac politique qu'il n'y a plus d'autre option. C'était ça ou pas pantoute. Donc, il a pris cette solution-là qui a des caractéristiques là, inquiétantes parce que bon, quand le gouvernement gère ça, combien ça va coûter? Bon, je pense qu'il y a des gens qui comprennent pas tout. Il y a des gens qui disent on met beaucoup d'argent à risque. Ouais, on met beaucoup d'argent à risque, je comprends, mais là, on achète quelque chose qui vaut quelque chose, ça vaut pas rien, ça vaut quelque chose. On va l'améliorer, on va l'élargir. Quand le gouvernement va le revendre, il va probablement récupérer une bonne partie de son argent, là, en tout cas, logiquement.
Mais il semble qu'il ait payé quand même un peu trop cher, c'est ce qu'on entendait. Ouais. Et que surtout la possibilité de le revendre, enfin, c'est ce que me semble que M. Pinault disait, est à peu près nul.
Le constat qui est fait, c'est qu'une entreprise privée se dit incapable d'exercer, de prolonger ses activités puis de faire le pipeline en question. Parce qu'il y a trop d'incertitudes.
Politiques,
juridiques, puis des gens qui vont manifester, puis t'as beau à vouloir... Mettons que le fédéral te dit oui, vas-tu être capable de le finir, ton pipeline?
Exact. Hein?
Et comme Kinder Morgan dit, nous autres, si on n'a pas de garantie, on ne peut pas le faire, puis vous avez jusqu'au 31 mai, puis il n'y a pas d'autres entreprises qui veulent le faire, le fédéral décide qu'il va le faire à la place du privé, c'est ça.
Ouais. En fait, ça s'appelle une nationalisation, c'est exactement comme
nationalisation temporaire.
Ouais,
le temps
là,
de construire.
Tu peux pas savoir si ça va être temporaire, définitif, et quel va en être le coût. Puis c'est une décision drôlement politique, parce que l'argument de base là-dessus, c'est dire quoi? C'est dire le pouvoir fédéral régit ce qui est transfrontalier, c'est ça. Hein, ce qui régit, donc, qui régissent les trains, les avions et les oléoducs. Le conflit était entre deux provinces, entre l'Alberta et un promoteur privé qui veut franchir une frontière, celle de la Colombie-Britannique. Et la Colombie-Britannique, se basant sur ses compétences provinciales en environnement, dit « il n'en est pas question ». Il était là le conflit.
La Colombie-Britannique a donné toutes les approbations environnementales. Après 2 ans et demi d'études, ils ont donné tous les feux verts. C'est que l'entretemps, il y a eu une élection. La Colombie-Britannique est tombée sous un gouvernement minoritaire, néo-démocrate. C'est-à-dire que l'élection a fini presque nez à nez. Là. Les néo-démocrates avaient un siège de moins que les libéraux, mais il y avait 3 verts. Fait que le NPD, en s'alliant avec les 3 verts, ont pris le pouvoir. Il y avait un siège de moins, mais là, il y en avait 2 de plus en s'alliant les 3 verts.
Mais ça change pas les compétences de la Colombie-Britannique.
Mais ce que ça fait, c'est que là, tout le Canada se retrouvait, c'est 3 députés verts qui tenaient le Canada par une partie sensible.
Appuyé par beaucoup. Faut sortir de ce mythe-là. Moi, je ne pense pas que ce soit juste des verts environnementalistes acharnés qui refusent ça. Il y a un intérêt pour la Colombie-Britannique majeur, puis à mon sens, c'est un intérêt économique très important, qui est que la Colombie-Britannique, lieu où il y a du vin, où il y a des cultures, lieu où il y a de l'eau, il y a un intérêt économique à préserver le côté vert de la Colombie-Britannique. Toute l'immigration qui arrive de chinoise qui arrive à Vancouver, elle vient pas pour des prunes, elle vient parce que c'est la côte ouest et que tu vis dans un lieu protégé au niveau environnemental. Ça a une grande valeur économique aussi. Peut-être pas aussi importante que la production des sables bitumineux, mais ça joue. Alors, faut pas évacuer la dimension économique de l'environnement.
C'est pas parce qu'un tuyau passe qu'il n'y aura plus de vin, là. Pour moi, on va encore avoir du Osoyos la rose l'année prochaine.
Sérieux, Mario, c'est les risques écologiques que ça pose, là. Les risques potentiellement destructeurs. Puis c'est beaucoup, là. Regarde, dans le port, moi, je lisais qu'il y a peut-être 60 navires qui transportent du pétrole. Ils vont en avoir 400 si jamais le Trans Mountain est fait. 400 bateaux dans la baie. Tu connais la baie de Vancouver. C'est du trafic maritime. Ça se peut pas que t'augmentes pas d'une façon radicale les risques. Et donc, c'est ça le contentieux. C'est deux provinces dont les intérêts économiques et environnementaux sont en conflit. Le fédéral dit, nous avons la compétence sur ce qui est transfrontalier. On va nationaliser et...
Il va plus loin. Il dit, c'est d'intérêt national. M. Ouais. Trudeau va plus loin. Il dit, c'est d'intérêt national pour l'emploi.
Avoue que c'est pas gagné.
Pour M. Trudeau?
Oui.
Le pari n'est pas gagné.
C'est une décision risquée.
Ça va être contesté.
Professeur Pinault dit que tu n'as aucune certitude que le projet va être complété.
Absolument aucune.
Là, le projet complété, là, parce que là, on recommence à les problèmes de M. Trudeau. Parce que là, c'est le gouvernement qui construit. Fait que là, s'il y a un vert ou un autochtone qui va s'enchaîner après le pipeline pour empêcher les bulldozers d'avancer, c'est le gouvernement qui devient l'écœurant qu'il faut qu'il envoie la GRC ou l'armée ou je ne sais pas qui l'arrêter, là.
Oui, mais là, pour le moment, il va y avoir un combat juridique déclenché par la province, par la Colombie-Britannique, en disant votre compétence transfrontalière fédérale ne prévaut pas sur notre compétence, sur l'environnement de notre... Ça va être ça, d'abord, le conflit. Il va d'abord être juridique, non?
Mais il peut en avoir un, effectivement.
Mais il peut être politique. Tu peux avoir des opposants qui décident d'aller bloquer les travaux.
Il va l'être aussi. Il l'est déjà. Il y a déjà une opposition forte et des Autochtones. Alors, les droits des Autochtones au niveau constitutionnel sont importants, sont majeurs. Quand ils vont s'y opposer... Alors, moi, je pense que c'est...
Il y a un dérapage. Tu sais, je lisais sur le dossier, là, j'ai plus les... Mais il y a 40 quelques communautés autochtones qui peuvent être touchées, là. Puis je pense que toutes sauf une ont donné leur approbation au projet, là.
Il y en a plusieurs qui ont donné leur approbation, c'est vrai. Parce que
c'est ça, c'est vraiment un dérapage à la dernière élection. Tout était attaché, tout le monde avait approuvé. C'est parce qu'on fait comme tout à coup, nous autres, on se met à suivre ce projet-là, puis on a l'impression qu'il n'a jamais été étudié. Je pense que l'étude totale a duré 29 mois, 2 ans et demi.
Monsieur Trudeau, dans le point de presse, qui avait rejeté des pipelines, avait maintenu celui-là. En disant, il faut qu'il se fasse.
Sauf qu'au niveau perceptuel, si quelqu'un qui a pris le temps d'écouter le mot à mot de ce que dit Justin Trudeau depuis, là, avant l'élection, depuis 3 ans, va dire qu'il est cohérent avec ce qu'il avait dit. Mais dans le monde des perceptions, on sait que la politique, c'est beaucoup ça, Justin Trudeau n'était pas du côté de Stephen Harper. Il dénonçait qu'Harper, les processus environnementaux n'étaient pas assez sérieux. Donc, il a obtenu pas mal de votes de gens qui étaient des environnementalistes. Probablement qu'il y a des gens qui ont voté vert en Colombie-Britannique, là, qui avaient voté Trudeau au fédéral, là, tu sais. Fait que ceux-là, c'est sûr que ceux-là, ils tombent en bas de leur chaise, là, pour eux autres, je les comprends, là.
Il s'est fait le défenseur de l'environnement, tu sais, à Paris. C'est un des porteurs de...
Mais il continue de dire qu'il va respecter les cibles de Paris.
Oui, mais honnêtement, là, c'est incompatible. Tu peux pas à la fois dire on respecte puis on veut réduire la production de gaz à effet de serre puis en même temps nationaliser le pipeline qui signifie l'augmentation de la production du pétrole des sables bitumineux. Les deux sont totalement en contradiction.
Ouais, mais c'est parce que le problème canadien, là, c'est que le pétrole des sables bitumineux, juste en termes de réalisme, le pétrole des sables bitumineux est une ressource qui nous appartient, qui vaut cher et qu'on ne vend pas à sa juste valeur parce qu'il est enclavé, parce qu'on n'a pas accès au marché. L'évaluation de ce que ça rapporte, puis là, je ne parle pas là, des payes, des salaires, je parle juste au gouvernement. L'évaluation de ce que ça rapporte pour les 20 prochaines années, c'est 47 milliards. Pour les 20 prochaines années. La construction du pipeline et la valeur ajoutée du pipeline. 47 milliards, je vous le répète, juste au gouvernement. Là, je ne parle pas là, de toute l'activité économique, de toutes les payes, les salaires. Je parle juste au gouvernement.
Puis pour les Pour la péréquation, c'est pas pire.
Ben, généralement...
oui, j'espère, parce qu'on investit quand même un bon montant de ce chiffre de 4,5 milliards avec nos impôts. Et ça, on n'a aucune consultation, rien à dire là-dessus. C'est notre gouvernement fédéral qui décide pour nous qu'on va faire ce choix-là. C'est sûr qu'il y a des gros montants qui vont être rapportés. Moi, je pense que la vraie question économique, c'est toujours, ces gros montants-là, est-ce qu'on est prêt à en assumer le coût global? C'est ça la question de l'environnement. Si tu développes l'économie jusqu'où? Jusqu'à temps que la planète crève? Et est-ce qu'il y a un avantage économique à ce que l'environnement soit détruit? Et est-ce qu'il n'y aurait pas aussi des avantages économiques à maintenir cet environnement-là en santé suffisante pour que ça génère une autre activité? On est vraiment dans le débat de base, là. Ça veut dire quoi défendre l'environnement? Puis ça veut dire quoi exploiter les richesses naturelles que l'on extrait du sol? Quel est le coût final de tout ça? Moi, je pense que c'est un débat qui est loin d'être tranché.
M. Trudeau était un homme de décision.
Ah, ça.
C'est pas la phrase que j'aurais dite à tous les jours de son mandat au cours des deux dernières années et demie.
Non.
Mais ce matin.
On lui souhaite bonne chance à la prochaine élection.
Attendez, on va rester sur d'autres dossiers qui le concernent avec le rapport du vérificateur général du Canada, entre autres sur le futur pont Champlain.